Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Je vous rappelle que Confluence est une association qui a été créée en 1990 par Maurice Petit, qui concentre ses activités sur la création, l'organisation, la diffusion de manifestations littéraires. Un des temps forts de Confluence, c'est le festival littéraire Lettres d'automne, qui va fêter cette année sa 25e édition. L'invité de cette 25e édition sera Agnès de Sarthe. C'est autour d'elle et de ses invités que se dérouleront donc ces Lettres d'automne durant 2 semaines en novembre prochain. Confluence a inauguré un nouveau local au 41 rue de la Comédie, la Petite Comédie. C'est donc un nouveau lieu culturel à Montauban qui vous propose des activités multiples. Vous pouvez trouver son programme sur place ou sur Internet. Le cercle de lecture de Confluence rassemble des lecteurs qui échangent autour d'un livre. Il y a eu une réunion de ce cercle la semaine dernière et aujourd'hui, certains des participants à cette réunion sont rassemblés dans le studio de CFM pour parler d'un livre qui s'appelle Patrick Modiano, Dora Bruder. Patrick Modiano qui a été prix Nobel de littérature 2004. Pour en parler, sont rassemblés dans ce studio de CFM 2014, c'est le dernier prix Nobel, c'était en français. Sont rassemblés dans le studio de CFM.
Françoise.
Jeannette.
Jean.
Bien, bonjour. Quelques mots sur Patrick Modiano. Jean-Patrick Modiano, il est né à Boulogne-Billancourt en juillet 45. Il est le fils d'Albert Modiano et de Luisa Colpine, qui est moitié hongroise, moitié belge. Une comédienne flamande qui est arrivée à Paris en juin 42. Connu ultérieurement son nom d'actrice de cinéma belge, Luisa Colpen. C'est âgé de 30 ans alors que le futur père de Patrick Modiano rencontre dans le Paris occupé, en octobre 1942, cette Luisa, la future mère de l'écrivain, qui est alors traductrice à la Continentale. Son père est un personnage essentiel dans la vie de Patrick Modiano. Son père, Albert Modiano, reste une énigme sur divers points. Et l'écriture permet à l'auteur de les développer de façon libératrice. De sa jeunesse, on ignore quasiment tout, hormis sa participation à quelques trafics. Durant l'occupation, il vit dans l'illégalité complète et utilise une fausse identité, Henri Lagroux, qui lui permet de ne pas porter l'étoile jaune. Mais le plus troublant reste un épisode dans lequel, après avoir été pris dans une rafle, et il sera rapidement libéré par un ami haut placé. L'identité de cet ami reste très floue. On suppose qu'il s'agit d'un membre de la bande de la rue Lauriston, c'est-à-dire de la Gestapo française. Ayant pour habitude de rencontrer son fils dans des lieux hautement fréquentés, comme les gares, les halls de gare et d'hôtels, Albert Modiano est toujours préoccupé par de mystérieuses affaires. Patrick décide à l'âge de 17 ans de ne plus le revoir. Il apprendra sa mort jamais élucidée, sans jamais connaître le lieu de son inhumation. Pour ce qui concerne la jeunesse de Patrick Modiano, je me réfère à ce qu'il en dit dans son discours de réception à l'Académie Nobel. Il a une jeunesse abstraite, très tourmentée. Il dit « Je ne voudrais pas vous ennuyer avec mon cas personnel, mais je crois que certains épisodes de mon enfance ont servi de matrice à mes livres, plus tard. Je me trouvais le plus souvent loin de mes parents. J'ai des amis auxquels ils me confiaient dont je ne savais rien, et dans des lieux et des maisons qui se succédaient. Sur le moment, un enfant ne s'étonne de rien. Et même s'il se trouve dans des situations insolites, cela lui semble parfaitement naturel. C'est beaucoup plus tard que mon enfance m'a paru énigmatique et que j'ai essayé d'en savoir plus sur ces différentes personnes auxquelles mes parents m'avaient confié et ces différents lieux qui changeaient sans cesse. Mais je n'ai pas réussi à identifier la plupart de ces gens, ni à situer avec une précision topographique tous ces lieux et ces maisons du passé. Cette volonté de résoudre des énigmes sans y réussir vraiment et de tenter de percer un mystère m'a donné l'envie d'écrire, comme si l'écriture et l'imaginaire pouvaient m'aider à résoudre enfin ces énigmes et ces mystères. » Voilà donc ce qu'il dit, c'est un passage qui est extrait de son discours à l'Académie suédoise. Alors, il a une vie donc même si assez compliquée. Ce qu'il faut tout de même savoir, c'est que à l'âge de 15 ans, il a rencontré Raymond Queneau, qui est un ami de sa mère et qui a été quelqu'un d'important pour lui puisqu'il l'a incité ensuite, il lui a donné le son de géométrie, il l'a incité à passer son baccalauréat, etc., etc. Il s'est inscrit à la faculté de lettres pour prolonger son sursis militaire, mais il n'a assisté à aucun cours. Et voilà. Et cette première, il va retrouver au Flore dans les années 60 et les précurseurs d'un mouvement qui s'appelait Panique, auquel il soumet son premier manuscrit. Le Crapouillot commande pour son spécial LSD un article évoquant la génération Michel Polnareff. C'est le premier texte qui sera jamais publié par Patrick Modiano, un connaisseur en la matière. Bien. Alors, le salut dans la matière. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Patrick Modiano a écrit des chansons. Il a écrit Étonnez-moi Benoît, une chanson de Françoise Hardy. Il a écrit L'aspire à cœur, qui a été chantée par Régine ensuite. Il s'est marié et a eu deux filles. L'une s'appelle Zina Modiano, qui est une réalisatrice, et Marie Modiano, qui est chanteuse et écrivain. Son premier roman, ça a été La Place de l'Étoile, qu'il a écrit en 1968 et qui a tout de suite été reconnu avec le prix Roger Noumié et le prix Fénéon. Je passe tout sur tous ses autres romans. Je cite Les Boulevards de Ceinture, Ville la Triste, Livret de famille, Rue des Boutiques Obscures, qui en 78 a eu le prix Goncourt. C'est important chez lui. Et son dernier est sorti en 2014, s'appelle Pour que tu ne perdes pas dans le quartier. Il a écrit aussi pour la jeunesse, il a écrit une pièce de théâtre, la Polka en 74, qui a été jouée au théâtre du Gymnase. Il a écrit des essais. Il a écrit donc des chansons. Il a une filmographie. Il faut savoir que c'est lui qui a fait le scénario de La Combe Lucien de Louis Malle, comme par hasard une histoire qui se passe aussi sous l'occupation. D'autres films, des gens qui passent à la télévision, etc. Il a eu donc de nombreuses récompenses et distinctions, dont le prix Nobel de littérature 2014. Alors aujourd'hui donc Dora Bruder. Dora Bruder, qui veut... Je ne sais pas, Jean, vous voulez un peu nous présenter Dora Bruder ?
Oui, je veux bien commencer. On peut peut-être expliquer pourquoi, parmi les nombreux livres de Modiano, on a choisi celui-là. Il me semble qu'il est très représentatif de la manière d'écrire de Patrick Modiano. Patrick Modiano, c'est quelqu'un qui est fasciné, on peut dire, par la période des années 40, enfin la période de l'occupation. Et... cette période qu'il n'a pas connue, puisqu'il est né en 45. Et il est fasciné aussi par... il a une passion pour les plans de ville, notamment le plan de Paris, les annuaires, les listes de noms de personnes, les calendriers. Et son œuvre, donc, enfin son livre, son roman, le Dora Bruder, porte la marque de ce goût pour le document authentique, historique. Et pour présenter peut-être le livre, on peut lire le début. Il dit ceci. Il y a 8 ans, dans un vieux journal, Paris Soir, qui datait du 31 décembre 1941, je suis tombé à la page 3 sur une rubrique d'hier à aujourd'hui. Au bas de celle-ci, j'ai lu Paris. On recherche une jeune fille, Dora Bruder, 15 ans, 1m55, visage ovale, yeux gris-marron, manteau sport gris, pullover bordeaux, jupe et chapeau bleu marine, chaussures sport marron, adressez toutes indications à Monsieur et Madame Bruder, 41 boulevard Ornano, Paris. Et à partir de là, à partir de ces brèves indications, il va essayer de reconstituer le plus possible la vie de cette jeune fille et avec une sorte d'empathie pour ce personnage qui reste jusqu'au bout assez énigmatique, dont on ne va pas savoir grand-chose finalement.
Alors, je crois que c'est ce qu'il faut dire. Il faut bien préciser tout de suite que c'est un roman. C'est-à-dire que c'est un roman, mais l'enquête est véritable. Tout ce qu'il dit dans l'enquête est vrai. C'est-à-dire qu'il va consulter les archives, il va aller sur les lieux, il va essayer de retrouver des témoins pour reconstituer cette vie de Dora Bruder.
Et tout au long du livre, il insère des documents réels.
Voilà.
Ça peut être des rapports de police, ça peut être des petites annonces, ça peut être des lettres.
Oui. Voilà. Oui. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que ce n'est pas un livre d'historien, en quelque sorte, mais non. C'est tout de même, ça montre un peu comment, à partir d'archives, on peut écrire un roman.
Voilà. C'est, finalement, l'histoire d'une enquête.
Oui.
Mais
voilà.
D'une enquête qui va rester inaboutie.
Oui.
Alors, en grande partie.
Oui. Parce que, il y a un point clé là-dedans aussi, dans ce livre, que je crois qu'on peut mentionner maintenant, c'est que cette Dora Bruder a fui de l'établissement où elle était, et il a essayé justement de savoir dans quelles conditions et quelles sont les raisons de cette fugue.
Voilà.
Et il ne les, on peut le dire qu'il ne les, il n'arrivera pas à les, voilà.
À il y a même eu deux fugues, hein. Il y en a une assez longue de 4 mois environ, et puis une autre beaucoup plus courte. Et puis on sait qu'elle est, qu'elle a retrouvé sa mère. Mais elle a retrouvé sa mère pour ensuite avoir un destin tragique, enfin terrible.
Son père.
Et son père.
Et son père.
Aussi.
Et son père.
Aussi.
Son père.
Et lui aussi, dans sa jeunesse, lui, Modiano, a fugué assez souvent.
Voilà. C'est pour ça que je parlais. Voilà. C'est pour ça que je parlais d'empathie avec ce personnage, parce que il essaie de montrer qu'il y a des points communs entre finalement l'histoire de cette jeune fille dont il ne sait pas grand-chose et sa propre existence. Bien sûr, dans des circonstances beaucoup moins dramatiques.
Alors c'est ce que vous parliez tout à l'heure en parlant de d'annuaires et choses comme ça. Il signale dans son discours à l'Académie suédoise, il dit oui. Il me semble que c'est en consultant ces anciens annuaires de Paris que j'ai eu envie d'écrire mes premiers livres. Il suffisait de souligner au crayon le nom d'un inconnu, son adresse, son numéro de téléphone, et d'imaginer quelle avait été sa vie parmi ces centaines de milliers de noms. Là, simplement, il ne va pas imaginer quelle était sa vie, il va enquêter pour savoir vraiment quelle a été la vie de cette personne.
Voilà.
Cette fameuse Dora Bruder.
Voilà. Si, je parlerai un petit peu de la recherche, de la quête du narrateur. Il dit, page 65, « Si je n'étais pas là pour l'écrire, il n'y aurait plus aucune trace de la présence de cet inconnu et de celle de mon père dans un panier à salade en février 1942 sur les Champs-Élysées. Rien que des personnes mortes ou vivantes que l'on range dans la catégorie des individus non identifiés. » Et il va s'attacher tout au long du livre et de cette enquête à retrouver des traces de cette jeune fille de 15 ans qui a disparu dans les camps de la mort. Il précise « Il faut longtemps pour que ressurgisse à la lumière ce qui a été effacé. Il suffit d'un peu de patience. Je suis patient. Je peux attendre des heures sous la pluie. » Cette recherche, il va l'effectuer à travers des documents et peut finalement en subsister. Et puis sur les lieux géographiques où Dora et sa famille ont vécu. Mais la recherche est difficile. Et il dit, pour percer ce bloc d'inconnu et de silence, difficile car Dora et sa famille ont laissé peu de traces derrière elles. D'autre part, les lieux où ils ont vécu ont changé et beaucoup ont disparu. Il dit, j'ai ressenti une impression d'absence et de vide chaque fois que je me suis trouvée dans un endroit où ils avaient vécu. Cependant, il ne renonce pas à percer ce bloc d'inconnu et de silence. Et même lors de l'écriture du livre, il lance des appels. Il dit, en écrivant ce livre, je lance des appels comme des signaux de phare dont je doute malheureusement qu'ils puissent éclairer la nuit. Mais j'espère toujours. Il espère que des gens qui ont connu Dora Bruder se manifesteront à lui et lui permettront justement de briser ce bloc d'inconnu et de silence. Et ce qui m'a intéressé, c'est que la quête du narrateur a quelque chose de médiumnique. En effet, avant même de connaître l'existence de Dora, en 1971, il a la prescience qu'elle a vécue et qu'il est sur ses traces. Il dit, c'était lors d'une promenade près de l'hôpital Rothschild. Cet après-midi-là, sans savoir pourquoi, j'avais l'impression de marcher sur les traces de quelqu'un. Et de même, à la caserne des Tourelles, où elle a été internée avant de partir à Drancy, derrière le mur où s'étendait un no man's land, une zone de vide et d'oubli, le narrateur parvient à sentir la présence de Dora. Sous cette couche épaisse d'amnésie, on sentait bien quelque chose, un écho lointain, étouffé. C'était comme de se retrouver au bord d'un champ magnétique, sans pendule, pour en capter les ondes. Et enfin, il dit « Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle et de sentir un écho de sa présence dans certains quartiers. » Cette empathie, en fait, l'a conduit à la retrouver en dépit des difficultés.
Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la ténacité dont il a dû faire preuve pour affronter l'administration française qui, puisqu'il n'était absolument pas parent de Dora Bruder, lui refusait les renseignements qu'il demandait. Et je pense que s'il a eu cette ténacité, c'est parce que il se sent en quelque sorte détenteur d'un devoir de mémoire. D'ailleurs, il va le dire carrément à la fin du livre. Et un devoir de mémoire à l'égard justement d'inconnus, de gens qui auraient complètement disparu dans l'oubli puisqu'ils n'avaient, c'était des apatrides, ils n'avaient pas de famille, enfin ils ont, toute la famille a disparu, et j'ai envie de vous lire un passage au début du roman où justement il évoque un peu ces ce que j'appelle des vies minuscules. Voilà. Ce sont des personnes qui laissent peu de traces derrière elles, presque des anonymes. Elles ne se détachent pas de certaines rues de Paris, de certains paysages de banlieue, où j'ai découvert par hasard qu'elles avaient habité. Ce que l'on sait d'elles se résume souvent à une simple adresse. Et cette précieuse précision topographique contraste avec ce que l'on ignorera pour toujours de leur vie, ce blanc, ce bloc d'inconnu et de silence. Et alors ce devoir de mémoire, on a l'impression qu'il s'étend au lieu, parce que il s'attache également à chaque fois nous dire, ben là aujourd'hui il y a un bar, mais autrefois il y avait un cinéma, et comme par hasard bien sûr un cinéma qu'il a fréquenté. Voici ce qu'il dit justement de ces lieux. On se dit qu'au moins les lieux gardent une légère empreinte de la personne, des personnes qui les ont habités. Empreinte, marque en creux ou en relief. Pour Ernest et Cécile Bruder, pour Dora, je dirais en creux. J'ai ressenti une impression d'absence et de vide chaque fois que je me suis trouvée dans un endroit où ils avaient vécu. Voilà, alors si vous voulez, je vous lis ce dernier passage où justement il évoque la difficulté à retrouver trace de ces gens qui ont disparu, surtout quand ils étaient juifs. Enfin, c'est surtout à cela qu'il s'intéresse, parce que bien sûr, les policiers qui les ont arrêtés et qui n'en sont pas fiers ont fait disparaître toutes les traces possibles. Les policiers des questions juives ont détruit leurs fichiers. Tous les procès-verbaux d'interpellation pendant les rafles ou lors des arrestations individuelles dans les rues. Si je n'étais pas là pour l'écrire, il n'y aurait plus aucune trace de la présence de cet inconnu et de celle de mon père dans un panier à salade en février 42 sur les Champs-Élysées, rien que des personnes mortes ou vivantes que l'on range dans la catégorie des individus non identifiés.
Oui, oui. Et il fait donc un parallèle entre cette Dora qui a fugué et son père, en disant que tous les deux, finalement, Dora et son père font partie de la catégorie des réprouvés, et que dans cette période tellement terrible de l'occupation, ils ne pouvaient qu'être ces deux personnages dans l'illégalité, dans un autre monde. Un monde qui échappait. Alors, à ce qui est terrifiant aussi dans le livre, c'est cette bureaucratie tatillonne, pointilleuse, inhumaine, qui fait que les gens sont mis dans des catégories, sont classés. Il dit par exemple, on vous classe dans des catégories bizarres dont vous n'avez jamais entendu parler, et qui ne correspondent pas à ce que vous êtes réellement. On vous convoque, on vous interne. Vous aimeriez bien comprendre pourquoi. Il me semble que ces phrases, elles peuvent permettre d'essayer d'imaginer, enfin, ce qui est très difficilement imaginable pour nous, 70 ans après, cette période si, si trouble, si compliquée, avec donc cette bureaucratie et ce monde kafkaïen, enfin, effrayant.
Et la bureaucratie qui transparaît à travers des documents officiels. Voilà. Il cite des documents officiels. Dans la lecture, comme vous le dites, est absolument terrifiante.
Oui. En même temps, on a l'impression que un certain nombre de ces Français de l'occupation, des Juifs de l'occupation, n'arrivent pas à soupçonner le gouvernement, les représentants de l'autorité, le préfet de police par exemple, d'être capables de telles atrocités. Et Patrick Modiano cite un certain nombre de lettres écrites en toute inconscience par des gens qui cherchent leurs enfants et qui se jettent dans la gueule du loup absolument.
Ouais. Et chaque fois, c'est bribes comme ça de réalité pourraient être le point de départ de notre histoire, oui, de notre roman. Oui.
Vous voyez, on parle là du Paris de l'occupation et je voudrais vous citer quelques lignes qu'il signale dans son discours à l'Académie suédoise. C'est important parce que donc l'occupation, c'est pour lui, c'est la toile de fond de pratiquement l'essentiel de ses livres. Hein. Ville étrange que ce Paris de l'occupation. En apparence, la vie continuait comme avant. Les théâtres, les cinémas, les salles de musicaux, les restaurants étaient ouverts. On entendait les chansons à la radio. Il y avait même dans les théâtres et les cinémas beaucoup plus de monde qu'avant la guerre. Comme si ces lieux étaient des abris, où les gens se rassemblaient et se serraient les uns contre les autres pour se rassurer. Mais des détails insolites indiquaient que Paris n'était plus le même qu'autrefois. À cause de l'absence de voitures, c'était une ville silencieuse. Un silence où l'on entendait le bruissement des arbres, le claquement des sabots des chevaux, le bruit des pas de foule sur les boulevards et le brouhaha des voix. Il continue un peu plus loin. Dans ce Paris de mauvais rêves, où l'on risquait d'être victime d'une dénonciation et d'une rafle à la sortie d'une station de métro, des rencontres hasardeuses se faisaient entre des personnes qui ne se seraient jamais croisées en temps de paix. Des amours précaires naissaient à l'ombre du couvre-feu sans que l'on soit sûr de se retrouver les jours suivants. Et c'est à la suite de ces rencontres, souvent sans lendemain, et parfois de ces mauvaises rencontres, que les enfants sont nés plus tard. Voilà pourquoi le Paris de l'occupation a toujours été pour moi comme une nuit originelle. Sans lui, je ne serais jamais né. Parce que, rappelez que ses parents se sont rencontrés donc en 42, etc. Et il est né, lui, en 45. Voilà.
Et parmi les histoires donc réelles, enfin vraies, qui sont... enfin, esquissé. Il y en a une qui m'a particulièrement touché, c'est l'histoire de ce jeune homme et cette jeune fille, bon, qui s'aiment. Mais elle est juive, les parents ne sont pas d'accord, et la solution toute trouvée, c'est on la dénonce à la police, et elle est arrêtée, et donc le jeune homme ne l'épousera pas. Et ça, c'est, bon, une tragédie, enfin, mais résumé en quelques lignes.
Mais ce jeune homme, il fait quand même des recherches sur ce jeune homme et il s'aperçoit qu'en fait ce jeune homme qui sans doute a découvert, enfin qui découvre, il le dit, que ce sont ses parents qui sont à l'origine de l'arrestation de la femme qu'il aimait, va se jeter sur un camion allemand pour, après avoir tiré sur les Allemands, et se suicider en quelque sorte.
Oui, oui. Vous êtes sur CFM. Vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Aujourd'hui, nous échangeons autour d'un livre de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014, qui s'appelle Dora Bruder.
Une phrase simplement pour évoquer le sort de ces personnes qui n'ont plus d'existence légale et dont beaucoup vont mourir. D'autres, comme lui, juste avant ma naissance, avaient épuisé toutes les peines pour nous permettre de n'éprouver que de petits chagrins. Donc, en quelque sorte, à travers le personnage de Dora Bruder, il rend hommage à tous ces individus qui ont vécu des tragédies et qui ne sont rien, enfin, qui, en regard desquels les petits chagrins que nous éprouvons ne sont rien. Puis peut-être une autre phrase. Les ordonnances allemandes, les lois de Vichy, les articles de journaux ne leur accordaient qu'un statut de pestiféré et de droit commun. Alors, il était légitime qu'ils se conduisent comme des hors-la-loi afin de survivre. C'est leur honneur. Je les aime pour ça.
Et son travail me fait penser un petit peu à celui de Beat Klarsfeld et de son mari, dont je me souviens plus, Serge Klarsfeld, qui... dans un mémorial, par exemple, comme celui du camp des Mille, près d'Aix-en-Provence, affiche les photos de tous ces gens qui ont disparu. Et Patrick Modiano, lui, fait une énumération de noms. Enfin, il y a bien sûr, c'est Dora Bruder dans le texte, mais comme tu disais, Jean, il y a Jean Josion, il y a tout un tas d'autres personnages, comme ça, dont il évoque les noms rapidement, comme des visages sur des photos.
Oui. Il a d'ailleurs retrouvé des photos de Dora et de ses parents, et c'est particulièrement émouvant de voir ces personnes qui semblent faites pour une vie heureuse. Et il y a un passage justement où il essaie d'imaginer que au cours de cette fugue, peut-être Dora a éprouvé un sentiment de liberté et peut-être même a entrevu un bonheur possible. Il dit, alors il a aussi dans ses recherches méticuleuses, il essaie de savoir quel temps il faisait, à quel jour, à quelle heure. Il faudrait savoir s'il faisait beau ce 14 décembre, jour de la fugue de Dora. Peut-être l'un de ces dimanches doux et ensoleillés d'hiver, où vous éprouvez un sentiment de vacances et d'éternité. Le sentiment illusoire que le cours du temps est suspendu et qu'il suffit de se laisser glisser par cette brèche pour échapper à l'étau qui va se refermer sur vous. Ces quelques lignes-là me semblent très caractéristiques de l'écriture de Modiano, qui justement, à partir de quelques notations apparemment simples, ouvre des perspectives.
Tout à l'heure, Françoise, tu parlais de l'aspect médiumnique et constamment, c'est frappant dans le roman, il cite toutes ces coïncidences. Il a vécu à Vienne comme le père de Dora Bruder. Il a habité les mêmes quartiers que Dora Bruder à Paris et en banlieue. Enfin, il a fait une fugue comme Dora Bruder.
Il a été en panier à salade.
Il a été arrêté
en panier à salade. C'est vraiment étonnant, oui.
Et dans sa description de Paris aussi, il va faire un moment référence au Misérable.
Oui.
Le Misérable de Victor Hugo.
Oui, il y a un passage très intéressant là aussi.
Qui est très intéressant là-dessus parce que il voit Victor Hugo décrit la traversée, donc nocturne de Paris, que font Cosette et Jean Valjean, traqués par Javert, depuis le quartier de la barrière Saint-Jacques jusqu'au petit Picpus. Bon, très bien. Et alors, il dit, voilà, on est là, ils longent le jardin des Plantes par des rubasses, ils arrivent sur le quai, ils traversent le pont d'Austerlitz. À peine Jean Valjean a-t-il mis le pied sur la rive droite, qu'il croit que des ombres s'engagent sur le pont, etc. Et soudain, on éprouve une sensation de vertige, comme si Cosette et Jean Valjean, pour échapper à Javert et ses policiers, basculaient dans le vide. Jusque-là, ils traversaient les vraies rues du Paris réel, et brusquement, ils sont projetés dans le quartier d'un Paris imaginaire que Victor Hugo nomme le Petit Picpus.
Voilà. C'est très, parce que justement, c'est ce, ce qu'il évite, lui.
Alors lui, c'est ce qu'il évite, justement, c'est ça qui est intéressant. Ouais. Lui, tout ce qu'il vous décrit, si vous voulez.
Il découvre que Hugo, tout d'un coup, complètement imaginé un Paris qui n'existe pas.
Il n'y a pas que Ur et Gérimadette, alors.
Voilà, oui, c'est ça.
Dans les inventions de Hugo.
Voilà. Oui. C'est ça qui est.
Mais c'est intéressant toutes ces ouvertures qu'il fait sur d'autres livres, d'autres personnages, alors réels ou romancés.
Alors, ce qu'on peut penser en nous entendant en parler, c'est que on voit qu'il y a une description qui est très très précise et autre. Et ce qu'il y a tout de même de formidable, c'est que malgré ça, malgré un peu la sécheresse de la description, il y a de l'émotion qui passe.
Voilà.
Mais sans qu'il y ait de pathos.
Voilà. Mais
sans
qu'il y ait de... En raison même de cette sécheresse, que le lecteur ne peut qu'être ému, qu'être touché.
Oui. Mais il laisse au lecteur, si vous voulez, il va pas susciter. Voilà. Chez le lecteur, il lui dit voilà les faits, etc. Et à toi de réagir. Quoi,
les faits sont suffisamment.
Parlants.
Et dans le genre fait, justement, je vous lis une ou deux de ces lettres écrites au préfet de police. Et il n'y a pas besoin de commentaires. C'est l'horreur. Je sollicite de votre bienveillance la libération de mon petit-fils, Michael Rubin, 3 ans, français, de mère française, interné à Drancy avec sa mère. Ou encore ces deux jeunes filles qui disent « Nos parents sont âgés, malades, venant d'être pris en tant que juifs. Nous restons seuls, ma petite sœur, Marie Grossman, 15 ans et demi, juive française, elle donne le nom de la carte d'identité, et moi-même, Jeannette Grossman, également juive française. » On imagine, sans qu'il y ait besoin de commentaires, le sort de ce...
Vous aviez fait remarquer, Jean, pendant notre discussion au cours du cercle de lecture de Confluence, que Bruder voulait dire frère.
Que Bruder, en allemand, veut dire frère. Et alors, alors c'est une coïncidence supplémentaire, sans doute.
Oui.
Mais on peut imaginer que ce nom... Parce que Modiano, il a aussi la passion des prénoms et des noms de famille. Hein. Et donc, on peut imaginer que ce prénom et ce nom lui ont particulièrement plu.
Oui.
Et que, d'une certaine manière, il se sent le frère de cette Dora.
Voilà. Et d'autant qu'il y a aussi tout de même un élément biographique... Intéressant, c'est que lorsqu'il était, donc son père était absent, sa mère était très souvent faisait des tournées, et ça le rendait très proche de son frère qui s'appelait Rudy, qui était plus jeune que lui.
Oui.
La mort de celui-ci à la suite d'une leucémie à l'âge de 10 ans, en février 57, sonne pour Modiano la fin de l'enfance. Donc vous voyez, il y a toujours il y a ces correspondances, il y a ces rebonds qui sont toujours... Et l'écrivain gardera une nostalgie marquée de cette période et dédiera ses premiers ouvrages, publiés entre 67 et 82, à ce frère disparu en une semaine, une leucémie.
Mais on peut même extrapoler à partir du prénom Dora, parce que Dora, c'est le cadeau. Hein. Ça veut dire un cadeau.
Ah oui.
Donc... c'est un cadeau, il est son frère. Donc
mais
il y a vraiment
il faut bien rappeler que ce n'est pas un nom inventé par Modiano, c'est le nom réel de cette personne, Dora Bruder. Hein.
Et alors on peut aussi signaler que très prochainement, sans doute, le nom de Dora Bruder va être donné à une rue de Paris.
Oui.
Et c'est vrai que à l'issue de ce roman, on se sent vraiment frère de tout, de tous ces disparus.
Oui.
Et une photo que commente d'elle, que commente Modiano, une photo plus ancienne de Dora, seule, à 9 ou 10 ans. On dirait comme qu'elle est sur un toit, juste dans un rayon de soleil, avec de l'ombre autour. Justement, peut-être a-t-il écrit le livre pour mettre son visage et sa vie dans la lumière.
Alors, est-ce que c'est un livre que vous, on a compris, c'est un livre que sans doute vous recommanderiez, vous recommandez. Et il y a certaines personnes, tout même au cours du cercle de lecture, qui ont éprouvé quelques difficultés, disons, de lecture, en disant j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le livre, à continuer, à, parce que c'est pas tout de même, c'est pas un roman qui vous, je veux dire, on n'est pas dans Les Misérables, quoi, en quelque sorte. Hein, c'est oui. Pas. Qu'est-ce qui, quelles sont vos réactions? Est-ce que vous avez éprouvé cette cette difficulté ou cette espèce de réticence ou pas?
Moi personnellement pas du tout. Oui. Enfin j'ai été pris dès le début.
Compris, je crois, oui.
Et bon, enfin j'aime beaucoup. Toute façon j'aime beaucoup l'œuvre de Modiano. Il reprend un peu toujours les mêmes thèmes, hein, oui. Mais il me semble qu'il a créé vraiment un univers qui fonctionne bien pour le lecteur.
Oui.
Ce qu'on s'était demandé, c'était si l'ennui peut-être que certaines personnes avaient ressenti ne tenait pas à ce qu'elles ne connaissaient pas la ville.
Enfin, oui, peut-être.
Parmi nous, ceux qui ont vécu à Paris ou qui connaissent bien Paris, imaginez bien les rues. Alors on se demandait si ça s'était passé à Madrid, par exemple, si on aurait eu les mêmes...
Il faudrait lire le livre avec en ayant un plan de Paris.
Ou alors on peut même le lire en se promenant dans Paris.
En suivant les rues, etc.
En se promenant dans Paris, oui. Eh bien, je crois que... vous voulez ajouter quelque chose?
Non, simplement, moi j'ai été captivée par cette entreprise. Est-elle romanesque, j'en sais rien, de reconstituer une vie.
Alors, je suis un peu étonné parce qu'il me semble que Modiano n'est toujours pas publié en Pléiade.
Non, mais c'est très rare qu'un écrivain vivant soit publié en Pléiade.
Il n'y a que Jean d'Ormesson.
Jean d'Ormesson va l'être.
Oui.
Et je suis un peu étonné, si vous voulez, qu'au moment où Jean d'Ormesson va être publié en Pléiade, Modiano ne le soit pas.
Oui, mais je ne crois pas que Le Clésio le soit, si.
Non.
Je ne crois pas non plus. Non. Il y a très très peu d'écrivains vivants qui soient publiés en Pléiade.
Je sais bien.
Il y en a eu de leur vivant.
Mais... Puis vous avez en ce moment, par exemple, le poète Philippe Jacotet.
Voilà.
Grac aussi.
Vous avez quelques écrivains, mais il y en a quelques-uns. C'est très rare.
Même Julien Green, c'était de son vivant aussi. Voilà. Mais c'est très rare.
C'est effectivement très rare, mais on peut se demander, si vous voulez. Moi, ce qui me surprend un peu, c'est que si la Pléiade avait un choix, etc., c'est que ce soit d'Ormesson.
Alors
peut-être en raison de son grand âge aussi, peut-être, je ne sais pas. Mais je pense que Modiano, par exemple, même avant qu'il ait eu le prix Nobel, je m'étonnais toujours qu'il ne soit pas dans la Pléiade. Parce qu'il y a une œuvre qui est très complète. Là, il y a deux volumes de la Pléiade à faire.
Oh, ça viendra un jour, sûrement.
Certainement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et je vous rappelle que nous avons aujourd'hui échangé autour de Dora Bruder, de Patrick Modiano. C'est un livre que vous pouvez trouver dans la collection de poche Folio. Oui.
Le prochain livre.
Alors le prochain livre sera
le
prochain livre sera en principe Une saison blanche et sèche d'André Brink. André Brink est un écrivain sud-africain, un africaneur, un écrivain blanc sud-africain qui a toujours combattu l'apartheid et qui a donc écrit ce livre. Je ne me rappelle plus très bien dans quelle année, mais c'était au moment où c'était bien avant la libération de Mandela. Donc c'était, si vous voulez, au moment où les tensions en Afrique du Sud liées à l'apartheid étaient vraiment les plus fortes. Alors c'est le livre que nous avons choisi pour le prochain cercle de lecture. Donc lisez-le avant et puis venez même participer au cercle de lecture. Vous trouverez sa date
le site.
Je crois que c'est le 30
le 26.
Non, le lundi 30.
Le lundi 30 mars. Mais vous trouverez la date sur le site de Confluence. Au revoir, merci et bonne lecture. Allez, lisez.